lorsqu'ils observeraient le signe de la venue de la destruction de Jérusalem, les Juifs allaient devoir être spécialement vigilants concernant un indice en particulier. En l'apercevant, ils devraient savoir que le moment était arrivé et chercher refuge aussi vite que possible dans les montagnes. C'est pourquoi, dit la Bible, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont on a parlé dans le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui vit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Ce passage ne présenterait aucune difficulté si chacun acceptait d'appliquer un principe très simple qui est de permettre à l'Écriture de s'interpréter par elle-même. Qu'était donc cette abomination de la désolation dont parlait Daniel? Au cours du tourment qui allait s'abattre sur la ville, quelque chose se trouverait dans ce lieu saint qui constituerait une abomination pour les Israélites. Luc, décrivant le même événement d'une manière parallèle, l'identifie aux armées romaines. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Qu'existait-il donc à propos des armées romaines pouvant composer une abomination aux yeux des Juifs? Chaque cohorte était précédée d'une enseigne au-dessus de la hampe de laquelle trônait l'aigle romain. L'image de l'empereur, idole en soi, flottait au vent des drapeaux. Le fait que ces symboles idolâtres puissent se trouver dans le temple ou même dans la ville où Dieu avait été adoré selon sa volonté depuis si longtemps représentait une abomination de la pire espèce pour les Juifs. Lorsque les immenses colonnes des troupes de Rome commenceraient le vaste mouvement d'encerclement de la ville, les chrétiens prendraient cela pour signe de ce qu'ils avaient à fuir précipitamment vers les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne se retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Elles ne pourraient évidemment pas disposer des provisions nécessaires en si peu de temps. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Les portes de la ville seraient fermées ce jour-là, ce qui rendrait un départ subi encore plus difficile. Quel sens ce passage de la Bible pourrait-il bien avoir s'il concernait le retour de Christ et la fin des temps? Quelle différence cela ferait-il s'il revenait un jour de sabbat ou pas? Pourquoi faudrait-il fouiller vers les montagnes sans rien emporter, même son manteau? Cela n'aurait aucun but, aucun sens. Le verset 21, et nous nous occupons toujours, bien sûr, de Matthieu 24, continue en disant, « Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Cet exposé s'applique parfaitement au siège d'une ville. On s'en rend encore mieux compte lorsqu'on lit le récit qu'en fait Flavius Joseph. C'était vraiment la désolation dans toute l'acception du terme. Jérusalem fut coupée de toute source de ravitaillement et les Juifs n'avaient à espérer aucune aide venant de l'extérieur. Des maladies de toutes sortes s'abattirent sur eux. Les gens mangeaient leurs propres enfants et les mères leurs arrière-fées. On pénétrait de force et on tuait les occupants pour fouiller les maisons à la recherche de nourriture. Puis, les Romains envahirent Jérusalem. Et Joseph rapporte que 1,250,000 Juifs furent massacrés. Tout en considérant sa tendance à l'exagération, on peut cependant imaginer que cela fut une véritable boucherie. Tout ceci a dû encore être bien plus terrible lorsqu'on pense qu'il s'agissait de l'exécution indirecte d'un jugement de Dieu envers un peuple qui, après avoir été élu, avait rejeté son seul espoir de salut, le Messie. Heureusement, le siège de Jérusalem fut relativement court. S'il ne l'avait été ainsi, le conflit se serait étendu à toute la Palestine et les chrétiens qui avaient échappé à la destruction en auraient souffert. Et c'est ici que le verset 22 prend sa pleine signification prophétique. Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Durant le siège même, certains donnaient le faux espoir au peuple en disant que le Messie viendrait pour les secourir. Le verset versets 23 à 27, insiste. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Au contraire, la venue du Fils de l'homme allait surgir comme un éclair qui illumine tout, ne laisse rien d'obscur, ne laisse rien de secret. Le jugement du Christ s'abattrait sur eux par le truchement des soldats de Rome. Ils étaient les aigles et eux, les cadavres du verset 28. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. La destruction de Jérusalem est donc représentée par l'image des vautours affamés, arrachant des lambeaux de chair à une carcasse. Après tout ceci, on devine très bien pourquoi Jésus pleura sur Jérusalem. Il savait ce qui attendait. Certains de ceux qui appliquent normalement la première partie du chapitre 24 de Matthieu à la destruction de Jérusalem changent d'avis concernant les versets 29 à 34 qui, disent-ils, se rapportent au retour du Christ. Cette idée fait abstraction de deux faits importants. Premièrement, le verset 24 qui dit « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive » englobe les passages dont nous avons parlé jusqu'à présent, ainsi que ceux qui le précèdent. Quoi que signifient les versets 29 à 33, cette génération ne passera point, dit Jésus, avant que tout cela n'arrive. Et deuxièmement, le verset 29 dit aussitôt, après ces jours de détresse, et ceci ne peut donc en aucun cas concerner les événements se situant plusieurs centaines d'années plus tard. Aussitôt après ces jours de détresse, cela signifie bien ceux qui sont arrivés aussitôt après ces jours de détresse particuliers. Passons maintenant en revue les versets sous rubrique. Verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et la puissance du ciel sera ébranlée. Il s'agit d'un langage figuratif déjà utilisé à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament pour signifier la chute des nations, des puissances, des dignitaires. Ésaïe, par exemple, parlant de la ruine de Babylone, dit « Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. » Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Un symbolisme similaire se retrouve également en Ézéchiel ainsi qu'en Jérémie. Puisque la chute de Babylone pouvait être figurée par l'obscurcissement des étoiles, du soleil et de la lune, on comprendra dès lors que lorsque Jésus utilise le même langage pour prophétiser la destruction de Jérusalem, il prédit l'extinction de l'éclat de la lumière d'Israël. Son soleil se coucherait pour ne plus se relever. L'éclat des honneurs se reflétant sur ses dignitaires se ternirait. Le flambeau que tenait Israël tomba de ses mains lors de la chute de Jérusalem. Verset 31, le Fils de l'homme enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents. Depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre, le déclin de la puissance judaïque faisait tomber les obstacles à la prédication de l'Évangile et sonnait le rappel des soldats de la croix. Ils partirent alors à l'assaut pacifique du monde. Rien ne s'opposait à ce que chacun apprenne la bonne nouvelle. Versets 32 et 33. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Par cette parabole, Jésus enseigne qu'à l'instar de la croissance du figuier, signe du printemps, l'observation de certains présages sinistres leur annoncerait avec certitude l'arrivée de la désolation. Deux faits curieux sont à noter concernant le siège de Jérusalem. Tout d'abord, les chrétiens échappèrent à l'horrible massacre. Ensuite, l'événement resté incompréhensible. Le général romain leva entièrement le siège après un certain temps pour revenir peu après. Les fidèles enfants de Dieu virent là l'effet de la providence divine, car c'est précisément grâce à cet intervalle qu'ils purent s'échapper. On peut tirer de ce chapitre nombre de leçons à la fois importantes et pratiques. Il est absolument déplorable de constater combien elles ont été détournées de leur but, obscurcies même, par une mystique spéculative, pour le moins ignorante. Ce 24e chapitre de Matthieu nous apprend certaines choses que nous pourrions résumer ainsi. Le jugement divin s'appesantira avec certitude sur toute âme qui rejette Jésus. Dieu est patient, mais il arrive un temps où cette patience a malgré tout un terme. Elle est alors remplacée par une justice exécutoire. Certains événements tragiques peuvent être la source d'une large diffusion de l'Évangile. Dieu protège toujours les siens, et la raison fondamentale de tous les avertissements donnés était de permettre aux chrétiens de se préparer à devoir quitter subitement la ville pour échapper aux hordes romaines. Enfin, nous apprenons la finalité de la parole de Dieu. Le verset 35 dit en effet, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Ce chapitre, assez difficile aux Écritures, a été littéralement torturé par les millénaristes et une mise au point était nécessaire. Matthieu 24 n'enseigne pas ce qu'ils prétendent et leurs obscures explications effrayent bien plus qu'elles n'attirent les personnes sincères vers une étude de cette partie de la Bible.